One of the hardest parts of getting older is feeling like something's off in your body, but not knowing exactly what. It's not just aging. It's often your hormones, too. When they fall out of balance, everything feels off. But here's the good news. This doesn't have to be the story of your next chapter. Hormone Harmony by Happy Mammoth is an herbal formula made with science-backed ingredients designed to fine-tune your hormones by balancing estrogen, testosterone, progesterone, and even stress hormones like cortisol. It helps with common issues such as hot flashes, poor sleep, low energy, bloating, and more. With over 40,000 reviews and a bottle sold every 24 seconds, the results speak for themselves. A survey found 86% of women lost weight, 77% saw an improved mood, and 100% felt like themselves again. Start your next chapter feeling balanced and in control. For a limited time, get 15% off your entire first order at happymammoth.com with code NEXTCHAPTER at checkout. Visit happymammoth.com today and get your old self back naturally.
All you homeowners have unique needs. Some feel the need to leave up holiday decorations year-round. Others have the need to use their garage as practice space for their new metal band. And because each homeowner has unique needs, GEICO helps you get the right coverage for your home and what's in it. That way, you get exactly what's right for you, even if your needs are unique. Get more with GEICO.
Section 5 de Claude Gueux. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Claude Gueux par Victor Hugo. Cinquième partie. Nous avons cru devoir raconter en détail l'histoire de Claude Gueux, parce que selon nous, tous les paragraphes de cette histoire pourraient servir de tête de chapitre au livre où serait résolu le grand problème du peuple au XIXe siècle. Dans cette vie importante, il y a deux phases principales, avant la chute, après la chute. Et sous ces deux phases, deux questions. Question de l'éducation, question de la pénalité. Et entre ces deux questions, la société tout entière. Cet homme, certes, était bien né, bien organisé, bien doué. Que lui a-t-il donc manqué ? Réfléchissez. C'est là le grand problème de proportion dont la solution, encore à trouver, donnera l'équilibre universel. Que la société fasse toujours pour l'individu autant que la nature. Voyez, Claude Gueux, cerveau bien fait, cœur bien fait, sans nul doute. Mais le sort le met dans une société si mal faite qu'il finit par voler. La société le met dans une prison si mal faite qu'il finit par tuer. Qui est réellement coupable? Est-ce lui? Est-ce nous? Question sévère, question poignante, qui sollicite à cette heure toutes les intelligences qui nous tirent tous tant que nous sommes par le pan de notre habit et qui nous barreront un jour si complètement le chemin qu'il faudra bien les regarder en face et savoir ce qu'elles nous veulent. Celui qui écrit ces lignes essaiera de dire bientôt, peut-être, de quelle façon il les comprend. Quand on est en présence de pareils faits, quand on songe à la manière dont ces questions nous pressent, on se demande à quoi pensent ceux qui gouvernent, s'ils ne pensent pas à cela. Les chambres sont tous les ans gravement occupées. Il est sans doute très important de désenfler les sinécures et d'écheniller le budget. Il est très important de faire des lois pour que j'aille, déguisé en soldat, monter patriotiquement la garde à la porte de Monsieur le comte de Lobau, que je ne connais pas et que je ne veux pas connaître, ou pour me contraindre à parader au carré Marigny sous le bon plaisir de mon épicier dont on a fait mon officier. Il est important, député ou ministre, de fatiguer et de tirailler toutes les choses et toutes les idées de ce pays dans des discussions pleines d'avortements. Il est essentiel, par exemple, de mettre sur la sellette et d'interroger et de questionner à grands cris, et sans savoir ce qu'on dit, l'art du XIXe siècle. Ce grand et sévère accusé qui ne daigne pas répondre, et qui fait bien. Il est expédient de passer son temps, gouvernant et législateur, en conférences classiques, qui font hausser les épaules aux maîtres d'école de la banlieue. Il est utile de déclarer que c'est le drame moderne qui a inventé l'inceste, l'adultère, le parricide, l'infanticide et l'empoisonnement, et de prouver par là qu'on ne connaît ni Phèdre, ni Jocaste, ni Œdipe, ni Médée, ni Rodogune. Il est indispensable que les orateurs politiques de ce pays ferraillent trois grands jours durant à propos du budget pour Corneille et Racine, contre on ne sait qui, et profitent de cette occasion littéraire pour s'enfoncer les uns les autres à qui mieux dans la gorge de grandes fautes de français jusqu'à la garde. Tout cela est important. Nous croyons cependant qu'il pourrait y avoir des choses plus importantes encore. Que dirait la Chambre au milieu des futiles démêlés qui font si souvent colleter le ministère par l'opposition et l'opposition par le ministère, si tout à coup des bancs de la Chambre ou de la tribune publique, qu'importe. Quelqu'un se levait et disait ces sérieuses paroles. Taisez-vous, qui que vous soyez, vous qui parlez ici, taisez-vous. Vous croyez être dans la question, vous n'y êtes pas. La question, la voici. La justice vient, il y a un an à peine, de déchiqueter un homme à Pamiers avec un eustache. À Dijon, elle vient d'arracher la tête à une femme. À Paris, elle fait, barrière Saint-Jacques, des exécutions inédites. Ceci est la question. Occupez-vous de ceci. Vous vous querellez après pour savoir si les boutons de la garde nationale doivent être blancs ou jaunes, et si l'assurance est une plus belle chose que la certitude. Messieurs des centres, messieurs des extrémités, le gros du peuple souffre. Que vous l'appeliez république ou que vous l'appeliez monarchie, le peuple souffre. Ceci est un fait. Le peuple a faim, le peuple a froid. La misère le pousse au crime ou au vice, selon le sexe. Ayez pitié du peuple, à qui le bagne prend ses fils et le lupanard ses filles. Vous avez trop de forçats. Vous avez trop de prostituées. Que prouvent ces deux ulcères? Que le corps social a un vice dans le sang. Vous voilà réunis en consultation au chevet du malade. Occupez-vous de la maladie. Cette maladie, vous la traitez mal. Étudiez-la mieux. Les lois que vous faites, quand vous en faites, ne sont que des palliatifs et des expédients. Une moitié de vos codes est routine, l'autre moitié empirisme. La flétrissure était une cautérisation qui gangrenait la plaie. Peine insensée que celle qui, pour la vie, scellait et rivait le crime sur le criminel, qui en faisait deux amis, deux compagnons, deux inséparables. Le bagne est un vésicatoire absurde qui laisse résorber, non sans l'avoir rendu pire encore, presque tout le mauvais sang qu'il extrait. La peine de mort est une amputation barbare. Or, flétrissure, bagne, peine de mort, trois choses qui se tiennent. Vous avez supprimé la flétrissure? Si vous êtes logique, supprimez le reste. Le fer rouge, le boulet et le couperet. C'étaient les trois parties d'un syllogisme. Vous avez ôté le fer rouge. Le boulet et le couperet n'ont plus de sens. Farinas était atroce, mais il n'était pas absurde. Démontez-moi cette vieille échelle boiteuse des crimes et des peines, et refaites-la. Refaites votre pénalité. Refaites vos codes. Refaites vos prisons. Refaites vos juges. Remettez les lois au pas des mœurs. Messieurs, il se coupe trop de têtes par an en France. Puisque vous êtes en train de faire des économies, faites-en là-dessus. Puisque vous êtes en verve de suppression, supprimez le bourreau. Avec la solde de vos 80 bourreaux, vous payerez 600 mètres d'école. Songez au gros du peuple. Des écoles pour les enfants, des ateliers pour les hommes. Savez-vous que la France est un des pays de l'Europe où il y a le moins de natifs qui sachent lire? Quoi? La Suisse sait lire, la Belgique sait lire, le Danemark sait lire, la Grèce sait lire, l'Irlande sait lire, et la France ne sait pas lire? C'est une honte. Allez dans les bagnes, appelez autour de vous toute la chiourme. Examinez un à un tous ces damnés de la loi humaine. Calculez l'inclinaison de tous ces profils. Tâtez tous ses crânes. Chacun de ces hommes tombé a au-dessous de lui son type bestial. Il semble que chacun d'eux soit le point d'intersection de telle ou telle espèce animale avec l'humanité. Voici le loup cervier, voici le chat, voici le singe, voici le vautour, voici l'hyène. Or, de ces pauvres têtes mal conformé, le premier tort est à la nature, sans doute, le second à l'éducation. La nature a mal ébauché, l'éducation a mal retouché l'ébauche. Tournez vos soins de ce côté. Une bonne éducation au peuple. Développez de votre mieux ces malheureuses têtes, afin que l'intelligence qui est dedans puisse grandir. Les nations on le craint bien ou mal fait selon leurs institutions. Rome et la Grèce avaient le front haut. Ouvrez, le plus que vous pourrez, l'angle facial du peuple. Quand la France saura lire, ne laissez pas sans direction cette intelligence que vous aurez développée. Ce serait un autre désordre. L'ignorance vaut encore mieux que la mauvaise science. Non. Souvenez-vous qu'il y a un livre plus philosophique que le compère Mathieu, plus populaire que le constitutionnel, plus éternel que la charte de 1830. C'est l'écriture sainte. Et ici, un mot d'explication. Quoi que vous fassiez, le sort de la grande foule, de la multitude, de la majorité, sera toujours relativement pauvre et malheureux et triste. À elle le dur travail, les fardeaux à pousser, les fardeaux à traîner, les fardeaux à porter. Examinez cette balance, toutes les jouissances dans le plateau du riche, toutes les misères dans le plateau du pauvre. Les deux parts ne sont-elles pas inégales? La balance ne doit-elle pas nécessairement pencher, et l'État avec elle? Et maintenant, dans le lot du pauvre, dans le plateau des misères, jetez la certitude d'un avenir céleste, jetez l'aspiration au bonheur éternel, jetez le paradis, contrepoids magnifique. Vous rétablissez l'équilibre. La part du pauvre est aussi riche que la part du riche. C'est ce que savait Jésus, qui en savait plus long que Voltaire. Donnez au peuple qui travaille et qui souffre. Donnez au peuple, pour qui ce monde-ci est mauvais, la croyance à un meilleur monde fait pour lui. Il sera tranquille, il sera patient. La patience est faite d'espérance. Donc, ensemencez les villages d'évangiles, une Bible par cabane. Que chaque livre et chaque chant produisent à eux deux un travailleur moral. La tête de l'homme du peuple, voilà la question. Cette tête est pleine de germes utiles. Employez pour la faire mûrir et venir à bien ce qu'il y a de plus lumineux et de mieux tempéré dans la vertu. Telle a assassiné sur les grandes routes, qui mieux dirigée eût été le plus excellent serviteur de la cité. Cette tête de l'homme du peuple, cultivez-la, défrichez-la, arrosez-la, fécondez-la, éclairez-la, moralisez-la, utilisez-la. Vous n'aurez pas besoin de la couper. » Fin de la section 5. Enregistré par Margot.
Section 6 de Claude Gueux. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Christiane Jehanne. Claude Gueux par Victor Hugo.
Le manuscrit de Claude Gueux. La Bibliothèque nationale ne possède actuellement que la copie, annotée et corrigée par Victor Hugo, de Claude Gueux. Le manuscrit original est en la possession de M. Louis Coq, qui a bien voulu nous le communiquer. C'est bien là le manuscrit de premier jet, avec des ratures, des ajoutés, des inactitudes, rectifiées ensuite. Le premier alinéa, rayé, présentait le récit comme venant d'un tiers. Voici des faits qui m'ont été racontés par un témoin digne de foi. Ce témoin aurait été sujet à caution sur quelques points, car, en suivant le manuscrit, nous y voyons une rectification importante. On en jugera par ces quelques lignes du premier texte. Il y a un dépôt central de prisonniers à Clermont. Il y en a un autre, à Troyes. Je ne sais plus dans lequel des deux, l'homme fut envoyé faire son temps. Je crois que ce fut à Troyes. Renseignement pris, ce n'était ni à Clermont ni à Troyes que Claude Gueux avait été emprisonné, mais à Clairvaux. Le manuscrit est paginé par lettres alphabétiques, au feuillet chiffré D, sous l'alinéa finissant par « Claude aimait beaucoup Albin et ne songeait pas au directeur », voir page 751. On relève cette date précédant un changement d'écriture, 20 juin 1834. Une autre date, au feuillet O, suit cette phrase. « À quoi pensent ceux qui gouvernent s'ils ne pensent pas à cela ?» Fini le 23 juin. C'est donc sur ces mots que se terminait le manuscrit. À partir de cette ligne, ce n'est qu'une copie. Nous en avons retrouvé l'original sur deux feuillets isolés, qui ne ressemblent au manuscrit de Claude Gueux ni comme papier ni comme écriture. Le début, encerclé et biffé, semble être fait sous le coup de l'émotion que l'auteur a ressenti en apprenant l'exécution de Claude Gueux. Encore une exécution! Quand donc s'en lasseront-ils? Est-ce qu'il n'y a pas en France un homme puissant qui en veuille à la guillotine? Hé, sire, on a guillotiné votre père! Dans la préface du « Dernier jour d'un condamné », préface datée, on s'en souvient, 15 mars 1832, Victor Hugo parle des exécutions de Pamiers, vers la fin de septembre 1831, de Dijon et de la barrière Saint-Jacques. Nous les retrouvons mentionnés dans les deux feuillets isolés qui terminent Claude Gueux. Il y a un an à peine, la justice vient de déchiqueter un homme à Pamiers, voir page 764. Cette phrase indique que ces deux feuillets avaient été écrits vers le milieu de l'année 1832. Selon nous, ces deux feuillets, antérieurs au manuscrit même, étaient destinés à un article, peut-être à un discours sur l'affaire de Claude Gueux, comme l'indique la note. Puis Victor Hugo se sera informé, documenté, et aura trouvé plus utile à la cause qu'il défendait de raconter la vie et la mort de Claude Gueux. Quand Victor Hugo suppose, dans la chambre, un interrupteur rappelant les législateurs à la question, le manuscrit donne des noms propres. « Taisez-vous, monsieur Dupin ! Taisez-vous, monsieur Mauguin !» Dans la revue de Paris, c'est le nom de monsieur Thiers qui est cité. Quelques alinéas ont été intercalés sur les épreuves. Fin de la section 6.
Section 7 de Claude Gueux. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Martine. Claude Gueux par Victor Hugo, historique de Claude Gueux. L'année même où Victor Hugo, dans sa dernière préface du dernier jour d'un condamné, avait dressé son vigoureux réquisitoire contre la peine de mort, la même année, en juin 1832, on exécuta Claude Gueux à Troyes. L'exemple viendra donc à l'appui de la doctrine. mais c'est seulement le 6 juillet 1834 que Claude Gueux sera publié dans la Revue de Paris. Ce n'est donc pas un roman, c'est une histoire vraie qui nécessairement ne se prête pas à de grands développements. Victor Hugo n'est là qu'un historien. Il recueille les faits, il les rapporte en les présentant sous une forme saisissante. Nous n'avons donc pas, comme pour les autres œuvres de Victor Hugo, œuvres d'imagination, toutes les notes qui permettaient de suivre la marche de l'œuvre ou des lettres, des indications qui nous renseignaient sur les origines. Ici, c'est beaucoup plus simple. Victor Hugo n'avait qu'à puiser dans le compte-rendu de la Gazette des Tribunaux du 19 mars 1832 pour avoir tous les éléments du drame qu'il plaçait sous les yeux des lecteurs. Là, il constatait que Claude Gueux avait comparu devant la cour d'assises de Troyes le 16 mars. Il trouvait tout le récit sur l'assassinat du gardien-chef de la prison et même les paroles singulièrement tragiques que l'accusé prononçait devant ses juges et qu'il n'a pas utilisé, au moins dans leur texte authentique. Les voici, telles qu'elles sont rapportées par la Gazette des Tribunaux. « Je l'ai assassiné, le gardien-chef, je l'avoue. Mais vous, messieurs du jury, lorsque, tranquille sur vos sièges, vous entendez dire que j'ai frappé sans provocation parce que de la selle, le gardien-chef, n'a pas levé une hache sur ma tête, vous ne comprenez pas ce qu'il y a d'horrible, d'atroce dans les douleurs d'une faim continuelle, tout ce qu'il y a de barbare dans ce supplice auquel on m'avait condamné après avoir épuisé tous les supplices. J'avais faim, on me refusa à manger. J'avais un ami, on lui refusa de me parler. Je nourrissais, moi affamé, mon père du fruit de mon travail. On me fait passer dans un atelier où je ne gagne plus rien. J'ai juré vengeance, car j'étais provoqué, provoqué pendant 6 ans, à toute heure du jour. J'ai tenu mon serment. Et ceux qui m'accusent aujourd'hui parce qu'ils ne tremblent plus devant moi, n'ont sur moi d'autre avantage que leur lâcheté. Ils ont applaudi à mon crime et n'avaient pas osé le commettre. Victor Hugo a écrit « Il paraît que ce pauvre ouvrier contenait bien plutôt un orateur qu'un assassin. » L'accusé avait été, en effet, comme on a pu le constater, vraiment éloquent dans sa poignante colère. Si on lit la Gazette des Tribunaux et si on compare le compte-rendu au récit de Victor Hugo, on verra que rien n'a été exagéré dans l'article de la Revue de Paris. Au moment où l'arrêt de mort fut prononcé, Claude Gueux ne fit pas un mouvement. Mais à la maison de justice, il harangua ses compagnons et leur dit qu'il ne se pourvoirait pas en cassation et qu'il ne demanderait pas sa grâce. Il se pourvut cependant en cassation sur la prière instante d'une sœur. Le pourvoi fut rejeté. 2 mois et demi s'étaient écoulés. On s'étonnait que l'exécution n'eût pas lieu. C'est qu'une demande en grâce avait été adressée au roi. Victor Hugo en a conservé le texte dans un dossier de papier relatif à Claude Gueux. Le voici. Le nommé Gueux, Claude, a été condamné à la peine de mort pour un crime auquel le tourment de la faim l'avait poussé. Sa tendresse pour son père a intéressé en sa faveur tous ceux qui l'ont approché. Malheureusement, l'affaire est à sa fin. La cour de cassation et la chancellerie l'ont examinée et le jugement va être exécuté si le roi n'accorde pas une commutation de peine. Le condamné attend le mot qui doit lui donner la mort ou la vie. La clémence de sa majesté, si généralement connue, est implorée par le condamné et par les jurés même. À propos de cette tendresse de Claude Gueux pour son père, Victor Hugo reçut la lettre suivante. « Monsieur, une personne qui se prétend bien informée m'annonce que vous avez l'intention de publier un roman historique sur Claude Gueux. Je pense, monsieur, qu'il est important que vous sachiez que le père Gueux, très âgé, a été condamné à une peine qu'il subissait dans la maison centrale de Clairvaux et que son fils, pour lui porter secours, a commis avec intention une action dont le résultat l'a conduit dans la prison de son père. Quand il faisait du soleil, Gueux prenait entre ses bras son vieux père et le portait avec le plus grand soin, sous la chaleur du jour. Je serais heureux que ces faits vous fussent de quelque utilité. Si vous avez besoin de quelques renseignements qui se trouvent au dossier criminel, ce serait pour moi une bien grande satisfaction de vous les procurer. Je suis, etc. Millau, greffier en chef de la cour d'assises, à Troyes. Victor Hugo n'utilisa pas ses divers documents. Il voulut raconter l'aventure dans toute sa brutalité tragique. Il avait tenu à frapper un coup. Le coup avait porté. on en jugera par cette lettre, simple et digne, qu'un négociant de Dunkerque adressa au directeur de la Revue de Paris. Dunkerque, le 30 juillet 1834. Monsieur le directeur de la Revue de Paris. Claude Gueux de Victor Hugo, par vous inséré dans votre livraison du 6 courant, est une grande leçon. Aidez-moi, je vous prie, à la faire profiter. Rendez-moi, je vous prie, le service d'en faire tirer à mes frais autant d'exemplaires qu'il y a de députés en France, et de les leur adresser individuellement et bien exactement. J'ai l'honneur de vous saluer. Charles Carlier, négociant. Nous ne donnerons pas, et pour cause, de revue de la critique. Les journaux furent à peu près muets, et la critique trouva sans doute superflu d'attirer l'attention sur cet opuscule déjà trop répandu. Seule la Revue de Paris, qui avait publié Claude Gueux, eut le courage d'apprécier ainsi la lettre de son correspondant. Pour nous, ces quelques lignes constatent un fait immense, le progrès des idées. Ce que tant d'esprits prévenus avaient qualifié jusqu'ici de rêve et d'utopie paraît vouloir se réaliser. Les idées marchent et pénètrent. Nous croyons inutile de faire observer la noble simplicité qui règne dans la lettre de M. Carlier. Il a raison, Claude Gueux est une grande leçon. Mais sa lettre est peut-être une leçon plus grande encore. M. Carlier a mis son titre de négociant au bas d'une sérieuse et digne chose. Il a signé l'alliance de deux forces toutes puissantes. Le grand poète auteur de Claude Gueux a été justement flatté de cette nouvelle marque de la sympathie qui escorte tous ses travaux. C'est en effet le plus beau triomphe qui soit réservé à l'écrivain que de voir la pensée qu'il sème s'élever aussi vite et porter des fruits aussi inattendus. Tant de théories justement louables ont passé dans ce monde sans obtenir l'attention, et encore moins les honneurs de la pratique. Qu'on doit ne pas considérer comme un médiocre événement l'accueil empressé qui se fait aujourd'hui à toutes les intentions loyales et pures de réformer et d'améliorer, de sauver et de conserver. Il appartenait à une des classes de la société qui n'ont pas toujours témoigné une vive sympathie à ces nobles et bienfaisantes ambitions, de donner à cette heure une marque aussi précieuse de son retour vers les intérêts spirituels. La lettre de M. Carlier est véritablement une grande leçon, un avertissement important. Dans ce moment, surtout, où les membres des deux chambres se vouent si exclusivement aux intérêts matériels, cette lettre d'un négociant qui montre une si vive et si touchante sollicitude pour une pensée ne saurait manquer de frapper et de faire beaucoup réfléchir ceux qui ont l'œil fixé sur le pays. Ce négociant est électeur, sans doute, et n'est-ce pas un progrès national immense lorsque ceux qui font les législateurs voient plus loin que les législateurs eux-mêmes. C'est aussi un symptôme curieux de la haute influence que conquièrent chaque jour les capacités. Si ceux qui gouvernent, et parmi lesquels nous reconnaissons avec plaisir des volontés fortes et intelligentes, daignent y prendre garde, nous ne doutons pas qu'ils ne lisent comme nous dans ce simple fait la nécessité d'ouvrir leur rang à des hommes que la France adopte elle-même et si largement. Il ne faut pas oublier que l'intelligence aussi nomme ses députés et qu'il serait plus habile encore que généreux d'absorber dans un centre commun, pour les diriger et les cultiver, ces royautés qui s'exercent au dehors, la plupart du temps dans un but hostile ou individuel. Fin de Historique de Claude Gueux, lu par Martine. Fin de Claude Gueux par Victor Hugo.
All you homeowners have unique needs. Some feel the need to leave up holiday decorations year-round. Others have the need to use their garage as practice space for their new metal band. And because each homeowner has unique needs, GEICO helps you get the right coverage for your home and what's in it. That way, you get exactly what's right for you, even if your needs are unique. Get more with GEICO.